TV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Ok, oui, on en jase comme habituellement de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Pour nous joindre, 418-971-102.1. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard sur App Store, Google Play Store. On est disponible sur twitch.tv. /BLVD/FM. Et on est également sur la web radio au BLVD.FM. À la météo, ben c'est une journée un petit peu plus difficile aujourd'hui. C'est 13 degrés actuellement avec de la pluie. On prévoit 17 degrés au maximum. Mais demain, 21 degrés, seulement 40% de possibilité d'averse et 19 degrés pour samedi. Ensoleillé dimanche, 23 degrés, alternance soleil et nuages. Pascal, c'est vrai, tu vas être d'accord avec moi, on est pas mal toujours sur la news, hein, on en jase.
Écoute, jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. En même temps, on est trois personnes passionnées par l'actualité.
Exactement. Antonine Iaccarini, d'habitude, je pèserais sur le piton puis je dirais on part le caucus, hein?
Oui, d'habitude, oui. Ouais.
Mais on fera pas ça parce qu'on a une personne en ligne qui nous attend pour une entrevue très intéressante. C'est Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski et ancienne ministre des Ressources naturelles et des forêts. Parce que pendant qu'on va parler à Maïté Blanchette-Vézina, bien le premier ministre François Legault va annoncer à la Fédération des municipalités du Québec le retrait du projet de loi 97 sur le régime forestier qui avait été piloté par Mme Blanchette-Vézina. Alors voilà pourquoi nous allons lui parler immédiatement. Madame Blanchette-Vézina, ça va bien?
Oui, très bien, vous-même?
Oui, ça va très, 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 très bien. Est-ce qu'on sent de la frustration aujourd'hui de votre côté avec cette annonce qui doit être en train de se faire par le premier ministre?
Non, c'est pas de la frustration, c'est plus une inquiétude pour les régions du Québec que j'apprécie et que j'aime, mais qui pour lesquelles j'ai travaillé, bien sûr, fort, mais que beaucoup de parties prenantes ont travaillé fort. Tu sais, moi, j'espère sincèrement que ce volte-face-là va permettre après d'arriver avec un projet de loi où on recommencera pas des consultations pour gagner du temps encore une fois. On le sait, M. Legault a une tendance à revenir sur des décisions recommencées, mais d'avoir des difficultés à prendre des décisions. Là, c'est encore une fois un exemple frappant de ça. Mais il y a un travail qui a été fait exceptionnel de la part des parties prenantes sur le terrain. Puis là, je pense bien sûr aux Premières Nations, mais à l'industrie forestière, aux communautés forestières, la FQM, l'UMQ, les groupes environnementaux pour améliorer le régime forestier cet été, dans les derniers mois également. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faudrait prendre des décisions parce que s'il y a un consensus clair, c'est que le statu quo n'est plus possible pour la gestion de nos forêts.
Je pose la question fragile et sensible. Pensez-vous que c'est parce que c'était votre projet ou parce qu'il était trop critiqué?
Ben, je pense que on avait des orientations claires. C'est sûr que c'est difficile d'avoir une acceptabilité sociale lorsqu'on pense à un seul secteur. Puis M. Legault avait cette volonté de faire un régime forestier qui se rapproche de l'Ontario, qui est très, très facilitant pour l'industrie. Moi, dès les consultations particulières, j'avais nommé que des changements importants devraient être envisagés. J'étais très ouvert à le faire, malgré les difficultés que j'avais avec l'équipe du premier ministre à faire des ajustements. Le premier ministre lui-même avait nommé qu'il n'y en aurait pas. Encore aujourd'hui, bon, on revient sur des décisions qu'il prend. Pour moi, c'est un exemple parmi tant d'autres que le premier ministre a des difficultés lorsque les dossiers deviennent plus corsés. Je pense quand même qu'il fallait apporter des changements importants, mais il ne faudrait pas recommencer. Là, je ne sais pas la décision qu'il prendra aujourd'hui. J'espère qu'il a entendu les entrevues qu'on a faites ce matin, moi et d'autres, pour dire ben il y a des bonnes choses, il faudrait avancer parce que c'est important de le faire.
Est-ce que vous avez l'impression que le premier ministre essaie un peu de vous faire porter le chapeau? Parce que, bon, vous quittez le Conseil des ministres et là, quelques jours après, on annonce l'abandon de ce projet de loi et qu'on va finalement refaire le processus pour le nouveau régime forestier. Pourtant, quand on fait un projet de loi, on collabore avec le cabinet du premier ministre, il y a plusieurs étapes, ça a passé au Conseil des ministres. Pourquoi ça arrive après le remaniement ministériel, ce recul-là de la part de M. Legault?
Ben, c'est possible qu'il essaye de me faire porter l'odieux des petits tollés que ça a pu soulever. Moi, je pense quand même qu'on doit avancer avec le projet de loi ou un autre, mais rapidement, arriver avec des changements pour la forêt. Puis dans ces ajustements qui doivent être faits, il y a notamment le forestier en chef, c'est qu'il a nommé que que le statu quo n'est plus possible dans l'aménagement. Ça, c'est notre vérificateur général des forêts, qu'il faut aider les forêts à traverser, à être plus résilientes face au changement climatique. Alors, de retarder encore des prises de décision importantes, notamment sur cet aspect-là, ben moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour, une filière économique importante pour les régions, mais aussi parce que j'ai vécu les feux de forêt de 2023. J'étais aux premières loges pour avec la gestion de la SOPFEU. Donc, il est important d'agir et de repousser les décisions. Ça ne fait que créer encore plus d'incertitudes là, dans un contexte qui est déjà difficile.
Comment le projet de loi que vous aviez piloté venait justement améliorer la situation économique dans les régions?
Mais il y avait bien sûr une façon d'avoir une meilleure prévisibilité des usages en forêt qui a été décriée par plusieurs parties prenantes. Ce qui a été discuté notamment durant l'été, des suggestions qui ont été faites par la FQM, le Conseil de l'industrie forestière aussi a changé son fusil d'épaule en cours de route, c'est concernant des régionalisations des décisions, avoir des sociétés d'aménagement régionalisées qui pourraient, oui, peut-être faire un certain zonage forestier dans les régions où ça peut se faire, mais pour d'autres, avoir au moins, à tout le moins, les parties prenantes, puis là je pense aux Premières Nations autour de la table, pour prendre des décisions qui, dans les régions, sont importantes. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut tabler, qui ont été déjà avancés, qui seraient, je pense, bénéfiques pour l'avenir de la filière, l'avenir de nos communautés forestières. Et donc, tout est déjà sur la table. Je pense que on doit avancer, ils doivent avancer rapidement, mais bien sûr avoir une meilleure cohésion et ne pas penser uniquement en termes industrie, mais en termes aussi de retombées pour les régions du Québec.
Lorsque vous avez quitté le caucus de la CAQ, vous avez parlé justement que François Legault délaissait les régions au profit des grands centres urbains. Est-ce un bon exemple que de reculer sur le projet de loi 97?
C'est un bel exemple, effectivement. Je sais que plusieurs députés du caucus souhaitent que le régime forestier soit revu. Il en va de la survie souvent d'usines qui sont dans leur comté, puis pas juste d'usines, c'est tout un écosystème. Lorsqu'une usine ferme, c'est la récolte forestière, c'est les travailleurs sylvicoles qui font le reboisement, c'est tous ceux qui dépendent des copeaux qui vont avoir un impact. Alors, je sais que les anciens collègues du caucus nommaient l'importance d'avoir un ajustement au régime forestier. J'espère sincèrement que le premier ministre va les écouter.
Quand on parle d'économie, clairement, on le constate à quel point c'est important, puis ça va dans un engrenage auprès de bien des industries puis des gens qui travaillent fort ici, qui nourrissent leur famille. Mais il y a des impacts, des enjeux importants pour la suite des choses. Selon vous, quelle lumière on doit allumer dans l'industrie forestière, autant dans les négociations avec les communautés qu'avec ce qui s'en vient à l'international puis les enjeux économiques?
Oui, il y a un virage qui doit être fait dans l'industrie. Là, on parle d'un point de vue plus macro. Là, on a, dans les dernières années, beaucoup misé sur l'exportation de produits de 2x4, là, nommons-le, qui est destiné aux États-Unis, presque à 100%. Dans les derniers mois, j'ai travaillé fort pour qu'on puisse développer des relations avec l'Europe, s'inspirer aussi des pays scandinaves comme la Finlande. D'ailleurs, il y a une entente qui a été signée juste avant mon départ là, pour permettre d'avoir des collaborations pour avoir d'autres débouchés, une deuxième, troisième transformation de la récolte, oui, qui sert à construire des maisons, construire, on en a besoin, des logements, plus de construction avec le bois du Québec, mais créer un marché intérieur, mais aussi voir à d'autres débouchés, utiliser les résidus de bois pour, par exemple, faire de l'électricité. Je sais que la Finlande a des produits qui sont faits avec la lignine, là, qui est comme un plastique, si vous voulez, là, qui sert en remplacement de plusieurs produits. Donc, l'industrie forestière va devoir se moderniser. Elle est rendue là. Elle a déjà débuté ce virage-là. Mais si on n'améliore pas nos façons de faire dans la gestion de nos forêts, ben c'est l'approvisionnement de la matière première qui est à risque pour eux. Et ça veut dire un pan important de leur rentabilité. Puis en termes économiques, c'est ça, mais en termes aussi pour les régions du Québec d'accès à nos forêts, de pouvoir continuer de bénéficier d'avoir les bénéfices de nos forêts québécoises. En termes d'accès au territoire, c'est beaucoup l'industrie forestière qui entretient, qui ouvre les chemins. Donc, sans cette industrie, ben, c'est difficile d'aller à la chasse, à la pêche, de pouvoir avoir un réseau de chemins qui est bien entretenu. C'est tout ça qui doit être mis dans la balance. Puis je pense que l'industrie, elle est rendue là, c'est ce qu'il me nommait. J'espère que le gouvernement va les aider à faire ce virage.
Vous aviez quitté le caucus de la CAQ il y a quelques jours maintenant. Vous avez fait cette conférence de presse. Là, c'était un geste fort, des critiques quand même virulentes envers M. Legault, son cabinet. Je sais que ça a brassé au caucus avec les autres députés également. Est-ce que vous êtes encore en contact avec vos anciens collègues? Est-ce que certains députés vous ont contacté aussi pour vous dire qu'ils vous soutenaient dans votre geste, dans les choses que vous avez dénoncées là, pendant cette sortie-là?
Oui, bien, j'ai nommé tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Ceci étant, c'est pas tout le monde qui a le courage de prendre cette décision-là. Moi, je n'arrivais plus à revenir dans mon comté et sentir que j'avais fait les bonnes choses, pris les bonnes décisions pour mes citoyens. Je voyais les décisions qu'on prenait qui allaient à l'encontre de l'intérêt des gens qui m'ont nommé, qui m'ont fait confiance. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de suivre mes convictions, d'agir avec maintenant liberté, authenticité pour l'intérêt de mes citoyens. Et les gens ont très bien accueilli dans mon comté ma sortie. Là, je suis contente de voir le soutien de la part des gens ici à Rimouski.
Madame Blanchette-Vézina, est-ce que vous êtes souverainiste?
Je suis très nationaliste, mais souverainiste en ce moment, je vous dirais, il devrait y avoir un débat public sur la question pour que je puisse me positionner. J'ai travaillé dans le contexte avec Donald Trump, là, je vois les impacts que ça a. Donc, je demeure à être convaincue, mais je demeure une nationaliste très forte.
Donc, vous êtes ouverte à la souveraineté?
Mais je pense que le Québec a tout ce qu'il faut pour se démarquer. Est-ce que c'est un bon contexte en ce moment avec Donald Trump, avec les difficultés que nous avons avec notre premier partenaire d'affaires? Je demeure à être convaincue.
Non, parce que je vous disais ça, parce qu'il y a un certain chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dirige le Parti québécois, qui va chercher des candidats pour l'élection 2026. Et comme vous voulez vous représenter, je regardais, là, je tâtais le pouls là, pour lui, il m'avait donné une mission.
Ah ben écoutez, j'ai dit la semaine dernière, puis je le répète, l'indépendance que j'ai en ce moment, je l'apprécie grandement. Puis si je revenais avec un parti, ce serait clair qu'il y aurait une vision pour le développement des régions du Québec. Donc, pour l'instant, je demeure indépendante.
Excellent. Trouvez-vous que le PQ a une bonne vision du développement des régions?
Je demeure à être convaincue. Il y aura une campagne électorale en 2026. J'imagine que leur plateforme sera en ligne éventuellement.
Madame Blanchette-Vézina, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Félicitations pour votre courage et vous avez énormément de bons commentaires là, justement là, de nos auditeurs par rapport au fait que vous osez dénoncer là, des choses qui se passent présentement à la CAQ.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. C'était Maïté Blanchette-Vézina. Écoutez, Antonine n'a pas fermé la porte au PQ. Hein?
Non, pas fort, non.
Pas fort, hein? C'est ouvert, là.
J'avais hâte d'entendre Antonine.
Ben, c'est parce qu'à l'intérieur de la CAQ, il y a des souverainistes, il y a des nationalistes, il y a des fédéralistes. Ça le dit, c'est une coalition. Quand la coalition se met à craquer, ben, des fois, tu reviens à la maison.
Moi, je j'attendrai pas du PQ de recruter Mme Blanchette-Vézina.
Non,
je pense pas que ça va arriver, mais elle a pas fermé la porte. En tout
toi, tu penses qu'ils iront pas vers elle?
Non.
Non.
On a-tu le droit de développer? Oui, c'est ça.
Bien, écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, le PQ s'est positionné de manière assez forte par rapport aux transfuges, aux gens qui sont partis, notamment les anciens péquistes qui sont partis à la CAQ. Je ne pense pas qu'ils vont aller chercher des caquistes comme ça. C'est pas Éric Duhaime là, qui jette là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Le PQ, en ce moment, ils ont le choix en plus. Puis Rimouski, c'est un très bon comté pour le PQ. Ils vont avoir le choix.
Ça fait-tu peur pour un chef de parti de voir comment, par exemple, une Chrystia Freeland peut avoir fait avec Justin Trudeau ou encore Maïté Blanchette-Vézina avec François Legault?
Écoute, je pense que le geste de Maïté Blanchette, il est important. Il y a un impact sur, j'ai envie de dire, un peu la fin de la vie politique de M. Legault. Mm. Est-ce que c'est une Chrystia Freeland? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va changer la dynamique politique à ce point-là. Mais est-ce que ça pourrait précipiter une course à la chefferie éventuellement, peut-être? D'ailleurs, je ne l'ai pas posé la question, mais je me la suis posée. Est-ce qu'il y a des successeurs potentiels qui l'ont contacté, Mme Blanchette-Vézina.
Oui, en effet. Geneviève Guilbeault, un Bernard Drainville.
Bon, j'en ai marre, je ne sais pas. Puis, puis je dis, quand j'ai une source, je vous le dis, là, c'est pas du tout ça.
Là, tu as réfléchi simplement.
Je me disais simplement que peut-être que ça faisait l'affaire de certaines personnes qui aimeraient qu'on précipite les choses. Mais je suis pas mal certaine qu'elle a reçu des messages, du moins de collègues députés.
C'est clair.
Et elle le dit, il y a des gens qui pensent tout bas ce qu'elle elle a dit tout.
Sur le régime forestier, François Legault a-t-il mal géré le dossier? Parce que Maïté Blanchet-Vézina dit « Moi, j'ai répondu aux commandes du bureau du premier ministre lorsqu'elle l'a quitté. » Là, il y a un recul. Là, on regarde ça à la télévision. Là, il va s'en venir, là, François Legault, là, prochainement l'annoncer. Là. C'est un autre avance-recul de la CAQ qui fait rien pour aider leur notoriété. Là.
Absolument. Là. Je veux dire, c'est pour ça aussi que je lui posais la question tantôt. Je disais, est-ce qu'il essaie de vous faire porter le chapeau? Parce que, premièrement, notre système politique est très centralisé autour du premier ministre, de base. C'est tout puissant, un premier ministre. Il nomme les ministres. Si tu ne fais pas l'affaire, tu te fais tasser. Mm-hmm. On l'a vu il y a deux semaines. Maintenant, un projet de loi, ça ne passe pas directement d'un cabinet ministériel à l'Assemblée nationale pour être voté. Il y a tout un processus entre les deux. Il y a eu 2 ans de consultation. Après ça, il y a des allers-retours avec le cabinet du premier ministre. Sans arrêt. Il y a un conseiller ou une conseillère au cabinet du premier ministre qui a le dossier des ressources naturelles, des mines et des forêts. Cette personne-là est au courant de tout ce qui se passe dans le projet de loi. Là. Puis avant que ça se retrouve au conseil des ministres, parce que ça passe au conseil des ministres aussi, il y a des discussions. Ça a dû passer au caucus aussi, parce qu'il y a plein de députés que ça touche, un régime forestier. C'est pas un petit projet de loi qui touche un comté, ça touche plein de comtés régionaux.
Mais je ne me souviens pas. Je n'ai pas souvenir.
De
Jack, une joke d'actualité au nombre de gens que tu nommes en
François Legault s'en souvient peut-être pas. Il y a un conseiller à quelque part qui doit s'en souvenir d'avoir vu ce projet de loi-là passer. Donc, c'est pas vrai que c'est elle la seule responsable. Il y a un partage de la responsabilité. Donc, le recul aujourd'hui, c'est le recul du cabinet du premier ministre, c'est le recul du premier ministre aussi. Ça peut pas être seulement Maïté a mal fait sa job, fait que nous autres, on va la refaire. Ça marche pas. Ça veut dire que vous avez été brouillon aussi dans votre manière de faire les choses.
Pas le choix de comparer ça avec, par exemple, le troisième lien ici dans la région de Québec.
Les coupes en éducation cet été,
on
annonce
ça,
après ça, on recule 3 semaines plus tard. On a un peu de misère à prendre la chaleur là, du côté du gouvernement, puis des fois, ça vaut la peine de prendre la chaleur. Bon, dans le cas du régime forestier, il fait quand même pas mal l'unanimité contre lui. Tu sais, quand tu as des élus municipaux, même l'industrie qui n'est pas vraiment contente, Premières Nations, les environnementalistes, les syndicats, ça commence à faire beaucoup de monde, mais l'erreur à ce moment-là, c'est de déposer ce projet de loi-là tel quel. Là. Je veux dire, le premier ministre l'a vu passer, c'est certain. Donc, peut-être que c'était la chose à faire, en fait, de ne pas le déposer tel quel. Mais là, c'est sûr qu'on voit ça comme un recul. Puis, tu sais, on est supposé de se donner un nouvel élan là, avec un nouveau conseil des ministres. Je trouve que ça commence drôlement.
Ouais.
Moi, que je comprenne pas. Peut-être qu'on va tout comprendre, là, puis tout va s'éclairer. Puis là, c'est le discours d'ouverture mardi. Peut-être que ça va être extraordinaire, mais pour l'instant, ça a juste l'air d'un recul. Le PM fait cette annonce-là à la FQM, parce que notamment, la FQM avait critiqué le projet de loi.
Clairement.
Et je dois préciser que la FQM ne critique pas beaucoup le gouvernement. Ils sont plutôt gentils, en général, très constructifs. Ils sont dans les propositions. Ils sont pas en confrontation du tout avec le gouvernement. Donc, quand la FQM sort pour dire ça marche pas vraiment pour nous, disons que tu prends sérieux.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a des questions à se poser. On va faire une courte pause. Par la suite, Antonine, on continue le caucus Iacarini. On veut parler notamment de Post-Canada, cette entité que le gouvernement leur a prêté 1 milliard $. Puis là, le gouvernement va dire c'est assez. Là, je vais vous brasser les cartes moi-même. Là.
Ça fait un bout que c'est assez.
Exactement. Puis tu veux nous parler d'une affaire d'autruche?
Oui, je vous en dis pas plus tout de suite.
Puis Pascal, je pense qu'on va être généreux avec nos auditeurs hein, parce qu'on a un beau concours. On fait ça après la pause?
On fait ça après la pause. Si vous voulez aller voir la tournée Like a Rolling Thunder, faut rester.
Excellent. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission d'Enjase.